Oui, entrez.
Vous m'avez fait demander, monsieur le maire.
Oui, viens ici, viens. Voilà, en attendant de trouver une solution, nous avons décidé de rallumer le four communal. Alors, Évariste, il faut que tu nous rendes un grand service.
Moi?
Oui, tu as bien travaillé comme mitron avec Félicienne dans le temps.
Ouais, dans le temps, comme vous dites, il y a 30 ans.
Oui, enfin, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons pas qu'on nous foute le village à feu et à sang, il faut que nous fabriquions du pain. Et tu es le seul à pouvoir le fabriquer, ce pain.
Sur le parvis du studio de Dieu Radio dans le parc de la Villette, un groupe de boulangères amatrices pétrissent du pain. Le groupe a été réuni à l'initiative de l'artiste et chercheuse Marie Preston. Depuis 2018, avec Pain Commun, Lynn Gigot, Loïs Kragba, Marie Preston et Graziella Semercian et leurs camarades boulangent du pain ensemble et partagent des savoir-faire. Parfois, elles lisent aussi des textes.
Donc là, on est en train de faire des pâtes pour des pains infusés. On a déjà fait des pains fourrés qui sont en train de finir de cuire et dont certains refroidissent. Et je suis en train de pétrir, c'est pour ça que j'ai l'air peut-être un petit peu essoufflée. Infusée parce que dans l'eau qui a été mélangée avec la farine, il y a de l'hibiscus et de la verveine. Et je vais lire maintenant. Compagnonnage des plantes et guilde permaculturelle. Multiplier les relations mutualistes et coopératives tout en réduisant la prédation et la compétition constitue une stratégie permaculturelle essentielle destinée à favoriser l'intégration au sein des systèmes et entre les systèmes. Le compagnonnage entre les légumes et les herbes aromatiques a popularisé l'idée selon laquelle les plantes ne sont pas forcément concurrentes et peuvent même avoir des effets bénéfiques les unes sur les autres. Dans l'enseignement de la permaculture, le concept écologique de guilde permet de se faire une idée plus générale de ces relations mutuelles, car il identifie les groupes de plantes et même d'animaux qui bénéficient les uns aux autres. Les guildes, clairement identifiables au niveau biorégional et local, sont un moyen de concentrer une forte complexité dans les conceptions des polycultures, notamment celles qui impliquent des plantes pérennes et des arbres à longue vie. Les recherches plus poussées s'imposent cependant dans ce secteur, car ce qui semble fonctionner dans les environnements et sur un sol donné peut échouer ailleurs. C'est pour ça qu'on n'est pas sûr que l'hibiscus fonctionne avec la verveine. On fait des essais.
Moi, je vais vous lire un extrait d'un livre écrit par Marie Astier, qui s'intitule « Quel pain voulons-nous ?» Chez Arvalis, un institut de recherche appliquée, le clou de la visite, le test de la panification. Chaque variété est éprouvée selon un procédé normalisé. Ici, on ne fait pas du bon pain, on fait du pain de façon constante. Indique Sonia. Une rangée de petits pétrins mécaniques mélange les ingrédients selon une durée identique pour tous, puis une machine façonne les baguettes sous une pression constante. Une chambre de fermentation permet de faire pousser les bâtons toujours à la même température, etc. À chaque étape, les deux boulangers de laboratoire notent le pain, collant à la pâte, longueur de la baguette au façonnage, levée à la fermentation, couleur de la croûte après la cuisson. On suit la recette basique de la baguette ordinaire, poursuit Sonia. Elle contient même de l'acide ascorbique. Le résultat obtenu est ce pain blanc de l'après-guerre, très volumineux, trop blanc, qui ne se garde pas. Les blés sont donc sélectionnés en fonction de leur aptitude à réaliser ce pain. Qui donc a décidé que les critères du bon blé pour le bon pain seraient ceux-là ? La filière a commencé à y travailler dans les années 70, raconte Philippe Roussel. On était en pleine période du pain blanc et moderne des 30 Glorieuses. Depuis, le test s'est normalisé, généralisé, et les critères, qui convenaient aussi très bien aux industriels, sont restés. Ce qui me choque, c'est que ce soit le seul test qui permette d'obtenir la commercialisation des blés. Ceux qui voudraient d'autres tests avec d'autres critères de qualité, par exemple pour une panification à la main ou au levain, ne sont pas reconnus.
Là, pour les pains infusés, alors déjà, on est en train de sortir la fournée de pain fourré. Et il s'agit maintenant, pour les pains infusés qui ont été pétris pendant les lectures, de disposer la pâte à plat afin de constituer une surface qui va faire l'objet d'une découpe en petits ronds pour réaliser ce que seront des pains plutôt sucrés. On va laisser la place à cette plaque qu'on va chemiser de farine pour poser ces petits pains.
On poursuit les lectures.
Ouais,
lire en pétrissant, ça implique que dans le pain, dans la pâte elle-même, la lecture qu'on fait en même temps qu'on pétrit rentre dans la pâte, puisque en fait le système du pétrissage c'est de faire rentrer de l'air dans la pâte. Et donc ce qui nous intéresse c'est de faire des pains aussi où il y a imprégné de ces textes sur la permaculture, sur l'écoféminisme, ou là sur une critique de ce qui peut du pain tel qu'on considère aujourd'hui qu'il est bon, c'est-à-dire blanc, bien gonflé, avec des additifs, etc. Et d'ailleurs, la farine qu'on utilise, c'est une farine qui vient de la ferme de Sainte-Beuve, qu'on est allé visiter il y a quelques temps, qui est une ferme installée en biodynamie. On est content d'utiliser cette farine.
Concevoir une communauté. Un grand nombre de ces stratégies, comme les SEL et les AMAP, peuvent naître au sein des communautés locales pour peu qu'un nombre suffisant d'individus partagent le même état d'esprit. Cependant, l'application la plus intégrée des stratégies et principes permaculturels nécessite d'établir et de développer des communautés volontaires. Il s'agit de communautés délibérément programmées et conçues par leurs participants, contrairement à celles qui dérivent de façon inconsciente de processus sociaux et économiques. Depuis plus d'un siècle, des communautés volontaires, souvent d'inspiration spirituelle, naissent en réaction à la société industrielle dominante. La plupart d'entre elles passent pour plus ou moins utopique, parce qu'elles estiment que la nature humaine est capable de créer une société bien meilleure, mais qu'il faut, pour cela, établir des modèles à petite échelle et non changer progressivement le monde dominant. Le plus abouti de ces mouvements est celui des kibbutz. Hérité du mouvement sioniste, il a permis la création de l'État d'Israël en 1948. Le fait que la population soit majoritairement arabe en Palestine et a, sans conteste, joué un rôle dans la cohésion et le succès des kibbutz. Mais l'unité culturelle et religieuse n'explique pas à elle seule cette réussite.
Tu penses qu'en fait, c'est pétri ?
Ouais. Ces textes, la série des textes sur la permaculture, là, ce sont des extraits d'un livre de Holmgreen qui s'appelle Permaculture. Et auparavant, on a également lu un texte de Starhawk qui s'appelle « Quel monde voulons-nous ? » et un livre de Marie Astier qui s'appelle « Quel pain voulons-nous ? » Et ça coïncide le rapport au monde que nous voulons et au pain que nous voulons. C'est de nouveau un texte d'Holmgreen. Je continue de pétrir. L'utilisation de l'écologie pour décrire la communauté. Pour favoriser les applications concrètes de la permaculture, de nombreux permaculteurs stimulent les compétences relatives à la constitution de groupes, à la prise de décision consensuelle, à la résolution des conflits et à d'autres outils pertinents utilisés au sein des réseaux d'éco-villages. Je fais une parenthèse, tout ça fait sens aussi parce que Le groupe du pain commun, c'est un groupe qui est constitué d'individus qui se sont rencontrés à Saint-Denis. Et on ne parle pas de communauté pour se décrire, mais tout ça nous parle. D'autres considèrent que le langage de la conception permaculturelle permet de décrire, renforcer et reconstituer les communautés locales. Au même titre qu'aujourd'hui, je fais une nouvelle parenthèse, on lit ce texte en écho à ce que l'on vit. Peut-être qu'il peut nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Certains, comme Yann Masson, ont poussé cette démarche plus loin. Ils utilisent la terminologie écologique pour décrire de façon directe et littérale les fonctions sociales et la conception des communautés. Ils appliquent au pied de la lettre des concepts écologiques, par exemple celle de communauté pionnière, qui ont été créés par les écologistes pour traduire des connaissances communes au domaine social. D'autres termes, comme niche, a déjà été récupéré par les économistes pour décrire les marchés. On critique généralement ce type d'approche en avançant que les modèles naturels ne parviennent jamais à décrire la complexité sociale humaine. J'estime que tout au long de l'histoire, nous avons puisé dans l'extraordinaire diversité de la nature pour mesurer les possibilités offertes à l'homme et en débattre. Donc l'utilisation de la nature comme modèle pour les comportements humains est à la fois une bonne et une mauvaise chose, mais tenter de comprendre et de concevoir des systèmes humains sans se référer à la nature est arrogant et plus dangereux que la simplification. Autre critique, certains écologistes estiment que les théories écologiques classiques qui inscrivent la permaculture et d'autres applications sociales de la science écologique est aujourd'hui obsolète, voire infirmée par la complexité grandissante des idées et des connaissances. L'un des objectifs de ce livre est d'utiliser les connaissances récemment acquises au sujet des systèmes biologiques pour améliorer la conception des nouveaux aménagements de terres et de nouvelles communautés. Je crois qu'on a bien pétri là.
Ouais.